Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Dutrisac, la première émission de radio à la carte.
Ça fait 2 jours que le premier ministre Trudeau a exigé la levée immédiate des barrages érigés à travers les voies ferrées au Canada. Tout ça, on le sait, pour protester contre un projet de gazoduc en Colombie-Britannique. Eh bien, de toute évidence, les Mohawks et les chefs héréditaires ne comprennent pas le sens du mot « immédiat » parce qu'il n'y a rien qui a bougé. Alors, en ce 19e jour des barrages, on revient sur les propos de notre premier ministre Trudeau, qui a dit, pour justifier son inaction dans le dossier, on n'utilise pas l'armée contre des civils canadiens. Ah bon? Ah ben, leçon d'histoire pour notre chef, notre premier ministre et notre professeur de théâtre, avec Gilles Laporte, qui est historien et enseignant. Monsieur Laporte, bonjour.
Bonjour.
Avez-vous steppé quand vous avez vu ça, vous?
Alors, au plafond, je crois qu'on a atteint, si vous me permettez, un nouveau niveau, là. Alors, parce que c'est à la fois absurde, ma foi insultant, et par ailleurs, même dangereux. D'abord et avant tout, l'armée n'intervient pas pour combattre des citoyens canadiens. C'est totalement faux. L'histoire des 2 derniers siècles prouve sans arrêt, de manière continue, que l'armée canadienne a allègrement intervenu, qu'elle a souvent utilisé la force et a même malheureusement causé des pertes de vie parmi des citoyens canadiens.
Avez-vous des exemples d'intervention de l'armée canadienne contre des civils?
Ils sont très nombreux. Bien sûr qu'ils sont surtout déroulés durant les guerres. On pense, par exemple, durant le seul été de 1916, l'armée canadienne est intervenue à 3 reprises juste à Montréal pour combattre des grévistes, des manifestants et rétablir l'ordre dans bon nombre de quartiers. Ça s'est produit cependant à plusieurs occasions, en Gaspésie au début du siècle, à Drummondville durant la...
Non, mais excusez-moi, mais allez-y un peu dans le détail, là, parce que vous dites en Gaspésie, je pense en 1907.
Voilà.
Donnez-nous un peu de détails, là, de ces interventions-là.
Bien sûr. Bon, rappelons que l'appel aux armes, c'est-à-dire évoquer l'armée canadienne, se fait par simple arrêté du conseil privé. On le voit souvent, par exemple, lorsque l'armée intervient dans les cas d'inondation, par exemple. Pour utiliser la force, il faut effectivement un simple vote de la Chambre des communes. C'est ça qui est le plus incroyable. Alors, donc, par conséquent, ça s'est produit allègrement durant la guerre des Boers, au tout début du 20e siècle. L'armée canadienne est intervenue pour séparer des groupes d'étudiants qui s'affrontaient à Montréal. Un cas particulièrement émouvant s'est déroulé en 1909, plus précisément, à Rivière-aux-Renards, en Gaspésie. Alors là-bas, c'est bien sûr des pêcheurs qui manifestaient le mécontentement, etc. L'armée canadienne a dépêché 2 vaisseaux de guerre au large de la Gaspésie pour rétablir l'ordre. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'arrestations. Bien sûr, on pense ensuite à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ce fut Légion. Et malheureusement, on célèbre malheureusement un anniversaire depuis peu de temps là, qui est terrible, l'intervention des forces armées canadiennes pour écraser des manifestants dans la basse ville de Québec le 1er avril 1918, causant la mort de 4 personnes.
OK. Il y a eu aussi Drummondville?
Bien sûr. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait régulièrement des manifestations contre la conscription. À la sortie d'un théâtre à Drummondville en avril 1945, il y a eu une manifestation qui s'est soldée, par des accrochages. L'armée canadienne, non pas la GRC, non pas la police provinciale, l'armée canadienne a été dépêchée sur les lieux. On a assisté à une bataille rangée entre 800 manifestants et 400 membres des forces armées canadiennes.
Alors, dites-moi une chose, M. Laporte, là. Quand un premier ministre qui dit que l'armée canadienne ne s'en prend pas aux civils, est-ce que c'est une preuve d'ignorance, d'arrogance? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Justin Trudeau?
Je pense que ça va au-delà de ça, si vous me permettez. C'est même grave. Par exemple, on pourrait invoquer que c'est du passé, tout ça. Désormais, on est en 2020. Mais pourtant, non pas très loin. En 2014, il y a eu quelques attentats terroristes, rappelez-vous, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa. Ouais. Et on a mis sur un pied d'alerte les forces armées canadiennes. Est-ce que ça à dire que M. Trudeau est en train de nous dire que ça n'aura plus lieu? C'est-à-dire que advenant une vague terroriste, jamais l'armée canadienne pourrait être amenée à intervenir contre des citoyens canadiens, même si ce sont des terroristes. Dans les deux cas, on se retrouve piégé, même bouche bée, par l'énormité de cette déclaration.
Puis en même temps, si on met l'armée canadienne dans ce conflit avec les chefs héréditaires, là, qu'on sait pas d'où ils sortent, puis on sait pas, là, c'est même pas démocratique, là, c'est des nomination. Si on met l'armée avec les Mohawks, on n'a pas fini.
Nous sommes d'accord. Des raisons de plus pour utiliser ces mots-là avec discernement. Monsieur Trudeau a le monopole de la violence légitime. Le sait-il? Est-il conscient que par de telles déclarations, il se lie de manière législative à ne pas intervenir? Mm-hmm. Il a cet outil-là. Pourquoi tout à coup le disqualifier alors que c'est un outil précieux, voire essentiel, pour maintenir l'ordre d'une certaine mesure? Je défends aucune thèse. Je suis en train de simplement dire qu'il s'est attaché lui-même, il s'est lié pied et main, il s'est retiré littéralement, il s'est disqualifié sur le plan législatif.
Comme prof d'histoire, là, M. Laporte, là, on vous envoie conseiller. Vous avez 15 minutes avec Justin Trudeau. Vous lui dites quoi?
Ben, malheureusement, je suis obligé de me coller un peu sur la déclaration du chef du Bloc québécois qui était quand même pleine de bon sens, qui a été repris d'un océan à l'autre, d'ailleurs, à l'effet de immédiatement demander la suspension des travaux en Colombie-Britannique. On ne peut pas tenir un double discours. On ne peut pas amener les manifestants à se calmer tout en maintenant l'occupation des territoires en Colombie-Britannique par la GRC. Bon, donc, évidemment, cesser les travaux et, bien sûr, appeler tout ce monde-là à négocier. Écoutez, M. Trudeau a le fardeau de la preuve. Il entretient depuis plusieurs années un discours de réconciliation. Il a l'occasion de mettre l'épaule à la roue. Oh, est-ce que les bottines vont suivre les babines? Ouais. C'est ce que les Canadiens veulent voir.
Puis en même temps, le projet gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique a eu l'aval d'abord d'un gouvernement NPD avec l'appui de l'opposition du Parti vert et des conseils de bande sur place. Les chefs héréditaires n'ont aucune légitimité à intervenir là-dedans.
Gouverner, c'est prévoir. En tout cas, Churchill et De Gaulle l'avaient bien compris en leur temps. Et en annonçant le début des travaux, il aurait dû s'attendre à une réaction autochtone. Elle était écrite. Alors, dès lors, il y avait une action qui devait être entreprise, possiblement se garder une marge de manœuvre à propos de la véritable mise en chantier des travaux, mais en tout cas, avoir à tout le moins prévu sur un tel scénario.
Très bien, on sait ça. Gilles Laporte, historien et enseignant, merci beaucoup.
Un plaisir.
À la prochaine.
Merci.